some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, l'écrivain. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. La pièce est sombre, seulement une lampe de bureau en étain avec un abat-jour en toile de jute naturelle l'éclaire. L'ampoule est faible et l'on ne peut voir que le dessus de la table qui a un bureau en bois recouvert de cahiers, chemises et livres mis en pile ou désordonnés. Derrière le bureau, l'on distingue une bibliothèque. Un homme est assis au bureau. Il porte une robe de chambre bleu roi en soie, maigre, abondante chevelure grise et petite moustache, le visage osseux, les yeux vifs. Il fume nerveusement sa cigarette en lisant des feuilles dactylographiées. Il a l'air agacé et énervé, hausse souvent la tête et soupire.
Comment ai-je pu écrire de telles absurdités? Toujours les mêmes sujets. La même histoire répétée, rabâchée. Le lac de Montrion. Les illusionnistes. Marc. comment mon éditeur ne s'est-il pas rendu compte de ça ?
Il repousse ses feuilles qui sont devant lui. Hausse ses épaules, soupire.
Tout cela ne vaut rien. Rien. Les gens qui ont encensé mon œuvre ne sont que des imbéciles. Demain, je reprends tout ça et je recommence à zéro.
Il regarde sa montre.
Allons nous coucher. Demain, je vais téléphoner à mon éditeur pour lui dire que je veux le voir. Oui, je repars à zéro. Je vais tout détruire.
Repartir à zéro. Mais j'ai quelque chose à dire.
Où suis-je, un écrivain sans idée ?
Il éteint la lampe et se lève. Sort de son bureau. Longe un couloir et entre dans une pièce. C'est sa chambre. Il n'éclaire pas. Les volets sont restés ouverts et c'est la pleine lune. Il s'avance près du lit. Qui semble être une grande tache blanche. Dedans se trouve sa femme qui dort. Il quitte sa robe de chambre qu'il va déposer sur une chaise. Il est en pyjama blanc. Il se couche auprès de sa femme. La nuit est pénible, comme un flux et un reflux de sommeil et de veille. Il ne sait pas s'il dort, s'il est éveillé, s'il doit dormir ou se réveiller. C'est une désagréable lumière du jour qui le réveille définitivement. La chambre baigne de soleil. Il se tourne vers sa femme qui est assise dans le lit et semble réfléchir. Elle semble réfléchir et se tourne de son côté et le regarde.
Tu es enfin réveillé. Passé une bonne nuit ? Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu n'as fait que de te tourner et te retourner.
Je suis vraiment navré.
Elle hausse les épaules et se lève. Elle est en chemise de nuit blanche à dentelle, grande, mince, les cheveux blonds qui ondulent jusqu'au cou. Son visage ressemble à une belle écervelée. Elle vient d'avoir 40 ans. Lui a 40 ans. Elle met ses pantoufles et se dirige vers la salle de bain. Il y a une porte contiguë à la chambre. Avant d'entrer, elle lui dit
« N'oublie pas que nous sommes mercredi et que c'est le jour que je reçois. »
Il soupire et lui dit
« Je le sais que trop bien, hélas. »
« Peut-être bien, mais la semaine dernière, tu as oublié et j'étais seul pour recevoir. »
« Oh, de toute façon, pour ce que je fais dans tes soirées. » Tu sais très bien que je m'y ennuie à mourir. Si tu pouvais m'en dispenser.
Pas question. Un homme de sa condition doit recevoir pour se faire des relations.
Ma foi, si tu le dis.
Et elle entre dans la salle de bain. Il se lève et sort de la chambre. aller à son bureau. La pièce est encore dans le noir. Le domestique n'a pas encore ouvert le volet. Il éclaire, soupire et va à son bureau. Prend les piles de feuilles qu'il en sort pour les ranger dans le bord de sa bibliothèque. Puis retourne à son bureau, prend une pile de feuilles qui se trouve dans un des tiroirs du bureau. Et s'assoit. Voyons, il faut que j'écrive quelque chose de fort. Non, pas sur le nihilisme. Je dois trouver autre chose. Je n'en vais tout de même pas faire encore une aventure de Marc. Non, voyons. Sur le dédoublement de l'artiste qui devient son objet. Oui, pourquoi pas. Trois heures plus tard, l'on frappe à la porte de son bureau. Cela le fait sursauter. Il regarde qu'il a une dizaine de feuilles écrites autour de lui. Je ne me souviens plus avoir écrit. Il a encore frappé. Entrez ! C'est sa femme qui reste dans l'encadrement de la porte. Elle a un tailleur bleu clair.
« Bon, je te laisse. Il faut que j'aille au coiffeur avant d'aller déjeuner avec Camille. »
Elle s'en va.
« Mais il est quelle heure ?»
Regarde sa montre.
« Déjà 13h30. Moi qui voulais avoir un rendez-vous avec mon éditeur. »
Prends le téléphone, fais un numéro.
« Allô, Sully ? Oui, c'est moi, Albert. »
Ton patron est encore là? J'aimerais lui parler.
Comment cela? Il est parti à mon rendez-vous? Mais je lui ai donné rendez-vous?
Moi?
Quand? Je lui ai téléphoné il y a 2 heures.
Mais non.
Non, ça n'a pas d'importance. Et où je lui ai donné rendez-vous?
Au Faisan Doré, rue Sully.
Bon, merci. Cela fait 1 heure qu'il est parti. C'est incroyable. J'ai complètement oublié que j'avais téléphoné.
Il sort de son bureau en courant. Il sortit de la maison, qui est un ancien hôtel particulier, boulevard des Beiges, avec une porte de service donnant sur le parc. Prend sa voiture, qui est garée devant son portail, et file. Il est entré dans le restaurant. À son entrée, le maître d'hôtel, grand et grisonnant, s'approche de lui. « Monsieur, vous avez oublié quelque chose ?»«
Non.
J'aimerais simplement un couvert pour deux personnes.
Le maître d'hôtel le regarde avec le sourire et lui dit : Bien, monsieur, je vois que vous appréciez notre cuisine. Tant tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez trop mangé.
Vous devez vous tromper.
Sûrement pas, monsieur. Et vous étiez avec un autre monsieur.
C'est ridicule cette histoire. Pourquoi inventer des choses comme celle-là ? Vous en voulez à votre patron ?
Non, monsieur. Mais je vous assure.
Cela suffit. Prouvez-le-moi.
Maître d'hôtel réfléchit. Ah, c'est bien simple. Vous avez payé avec un chèque. Attendez, je vais vous le chercher. Il revient avec un chèque. Albert le Duc le regarde. Il voit que c'est bien un chèque à lui et signé par lui.
Qui vous a donné ce chèque ?
Vous-même, monsieur.
Vous vous foutez de moi ?
Non, je vous assure, monsieur. Un homme gris et fort arrive. Il est chauve et porte un costume marine. Il demande au maître d'hôtel : Que se passe-t-il ? Monsieur ne veut pas croire qu'il vient de déjeuner chez nous. Je lui ai pourtant montré son chèque. Le gros homme dit : Monsieur veut peut-être un deuxième repas gratis ? Albert lève les bras en l'air et dit : Non, non, ça va, ça va, ça va. Et il sort, la tête en feu. Entre dans sa voiture.
J'y comprends rien. Cette matinée est un grand trou noir dont je me souviens absolument de rien. Il faut que j'aille voir mon éditeur.
Arrivé dans les bureaux de son éditeur, qui est avenue de Saxe, un grand immeuble des éditions du Temps, il va vers la secrétaire, qui est une jeune fille dans les 22 ans, mince, brune, jolie.
J'aimerais parler au patron.
Ah, bonjour, monsieur Albert. Vous avez oublié de lui dire quelque chose ?
Oui.
À son retour, il semblait très content de son déjeuner. Elle appuie sur l'interphone. « Monsieur Duruc, monsieur Albert, le duc désirait vous voir. »«
Ah, déjà, faites l'entrée. »«
Vous pouvez y aller, monsieur Albert. » Albert frappe et entre.
La pièce est grande, vaste, meublée avec des meubles du bureau modernes. Un homme est assis derrière son bureau, il se lève. Grand, gros, chauve, l'air jovial.
Alors, mon cher Albert, vous m'amenez déjà les premiers chapitres de votre nouveau roman.
Je savais bien que si vous m'en parliez, c'est que vous aviez déjà commencé.
Non, je n'ai rien commencé. Je suis seulement venu savoir si notre déjeuner s'est bien passé.
Oui, très bien. Pourquoi ?
Rien comme ça, c'est que... Qu'est-ce que je t'ai dit sur mon roman ?
Monsieur Duruc sourit, comme si tu ne le savais pas. Tu m'as parlé d'une histoire de déboulement de la personnalité.
Mais arrête de te ficher de moi. Je me fiche pas de toi, mais figure-toi que... Je me souviens absolument de rien de cette matinée. Le trou noir.
C'est peut-être la fatigue. Va voir un médecin.
Oui, le trou noir. Comme si j'avais eu un coup sur la tête.
T'as reçu un coup sur la tête ? Par hasard, on sait jamais.
Je ne sais pas. Alors,
Va voir ton médecin. Tu veux que je t'accompagne ?
Non, ça va.
Il sort du bureau.
Le médecin d'Albert habite lui aussi boulevard des Belges dans un ancien hôtel particulier. C'est un médecin généraliste, mais mondain. Il est grand, mince, ses cheveux osseux avec une abondante chevelure et une barbe blanche, de grands yeux bleus profonds qui sont protégés par d'immenses lunettes à monture en écaille. Ses mains sont très blanches et douces. Il porte une chevalière en or et une vieille mante gousset habillée d'un costume trois pièces marine. Ce que l'on aime en lui, c'est le mondain, celui qui sait tout, le confident de ses dames surtout, l'homme qui sait bien jouer au golf, être agréable dans un cocktail. Il est plus devenu un confident qu'un médecin. L'on vient vous voir pour badiner ou demander un conseil pour résoudre un secret de famille. Marié avec une mondaine, deux enfants, un garçon et une fille, sa salle d'attente et son bureau sont meublés Louis XV. Il y fait frais. L'on voit des fenêtres, la verdure du parc. On a l'impression de se trouver dans un autre monde, hors du temps, du bruit, de la foule. Ça sent le frais, les fleurs, la cire. Dans son bureau, les quelques rares instruments de médecine qu'il possède, qui sont comme tous les instruments de médecine froids, sans homme, et dépareillés avec le décor, sont cachés. Même le téléphone se fait discret. Il est noir et fait vieux. Après avoir ausculté Albert le Duc, plutôt en le palpant debout le torse nu, avec un appareil tout de même, de toute façon il sait que sa clientèle ne peut avoir de graves maladies. Ce sont des gens du monde, n'est-ce pas? Une fois habillé et assis devant le bureau du médecin, qui regarde ses mains qui sont bien à plat sur le bureau, il lui dit « Je n'ai rien trouvé, tout semble en ordre. Peut-être un peu de fatigue intellectuelle. » Il arrête de regarder ses mains. Regarde Albert en se plaquant contre le dessus de sa chaise. Votre femme m'a dit qu'elle désirait prendre quelques jours de repos et qu'un voyage d'une semaine au Mexique lui ferait le plus grand plaisir. Surtout qu'elle sait que les hautes bords y vont. Mais elle n'ose pas vous le demander. Que pensez-vous de faire un petit voyage? Cela serait le moment. Vous avez sûrement besoin de repos.
Je vous remercie, mais j'ai promis à mon nouveau roman à mon éditeur.
Comme vous voudrez, mon ami. Comme vous voudrez, mais si vous le désirez, je peux dire à votre éditeur que vous n'êtes pas bien.
Non, surtout pas. J'ai besoin d'écrire ce livre.
Le médecin soupire. Ma foi. Je n'ai rien à vous dire de plus. Et il se lève. Albert aussi. Ils vont vers la sortie. Au revoir, monsieur.
Au revoir, docteur, et merci.
Chez lui, penaud
et s'apprête à aller dans sa chambre. Sa femme est en bas des escaliers qui lui dit
« T'es pas encore changé. Les invités arrivent bientôt. »
« Déjà ? » ?»«
Mais tu as vu l'heure qu'il est ?»«
Non. Bon, je prends une douche et je m'habille. » »«
Non, tu n'as plus le temps de prendre une deuxième douche. T'en as déjà pris une tout à l'heure. »
« Mais j'ai pas pris de douche. »
Elle hausse les épaules et dit
« Oh, écoute, arrête. Tu as déjà pris une douche et tu t'es rasé de près. »
Il monte à l'étage pour entrer dans sa chambre. Il se regarde dans la glace de l'armoire, perplexe. Regarde bien son visage, touche sa joue.
J'ai l'air de m'être rasé il n'y a pas longtemps. Que se passe-t-il? Suis-je devenu fou? Ou n'ai-je plus de mémoire?
Il se sent là, va s'asseoir sur une chaise. On a frappé à la porte.
Tu es prêt?
Je ne suis pas encore habillé.
Elle entre.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es prêt?
Quoi?
Arrête avec ces farces. Et sortons.
Il se lève. Il se regarde dans la glace et se voit en habit.
Ah, ça alors? Et en smoking?
Il suit sa femme abrutie. Ils ont descendu les escaliers. Les invités commencent à arriver. La soirée se passe dans le grand hall du rez-de-chaussée et l'on a ouvert les portes des deux salons, le Louis XV et Restauration. Sa femme porte une robe du soir blanche. Une fois en bas, ils se séparent pour saluer leurs invités.
Quelle n'est pas cette surprise?
De voir arriver Hélène d'Hautebeurre et son mari, elle porte une robe du soir rouge et une coiffure étrange tout en hauteur. Elle et son mari s'approchent de lui. Elle lui dit
« Quelle surprise, n'est-ce pas? Nous avons décidé de venir, sachant que cela n'allait pas vous déranger. » Car vous n'avez plus à nous décrire. Nous sommes connus depuis 1980. Depuis que nous allons d'une aventure à l'autre.
Monsieur Hautebeurre lui dit
« Je m'amuse en ce moment à écrire un roman sur les démêlés d'un auteur avec ses personnages. C'est assez drôle, car l'auteur ne sait plus où il en est. Mais je dois vous avouer, c'est que ma femme et moi sommes tristes de ne plus avoir d'aventure à se mettre sous la dent. »
Elle perce sans larmes d'un coup. Que d'émotion! Il va tout tourner. Madame de Hautebeurre le voit.
Vous n'êtes pas bien, mon ami. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous vous asseyiez. Aidez-moi, mon mari.
Et sa femme et lui le prennent par l'épaule et le font asseoir sur une chaise qui est contre le mur. Madame de Hautebeurre lui demande
« Vous voulez que vous m'appelle un médecin ?»
Son mari lui dit
« Tiens, voici notre cher médecin. »
Et oui, le médecin d'Albert vient de faire son entrée. Le sourire aux lèvres, une foule d'hommes et de femmes surtout tourbillonne autour de lui. C'est leur médecin, leur cher médecin, qui est qui sait tant de choses sur eux, qui se sent forcé d'en faire un ami, car il risquerait de dévoiler certaines choses et même, à la rigueur, de les faire chanter. Madame de Hautbord essaie de se faufiler au milieu de cette foule de courtisans pour aller vers le médecin. Enfin, elle est près de lui.
« Mon cher ami, venez vite, nous avons besoin de votre aide. Notre cher créateur vient d'avoir un malaise. »
La foule fait « Ah !» Le médecin fronce ses sourcils et met les mains dans sa poche de son gilet et demande « Où est-il ?»
Hélène de Hautbord lui dit « Venez, suivez-moi. »
Il suit Hélène, les gens les suivent. Le médecin se tourne vers la foule et leur dit « Je vous en prie, laissez-moi travailler en paix. » Et il s'éloigne.
Voici le médecin qui se penche vers Albert, qui est toujours aussi blanc et lent.
Sa femme les a rejoints et demande au médecin
« Qu'est-il ?»
Il soupire et dit « Rien de grave, il est un peu fatigué et c'est tout. Il lui faudrait changer d'air. »
L'Amérique du Sud,
dit Françoise le Duc, la femme d'Albert. Le médecin dit,
non, madame, il lui faut autre chose.
Je connais un endroit où l'esprit peut vagabonder à souhait. Le lac de Montrion, en Haute-Savoie. Albert se lève d'un coup et dit,
ah non, le lac de Montrion, je commence à en avoir marre. Ça fait depuis 1980 que cet endroit me hante. Non et non. Je ne vais pas retourner là-bas.
Garde les gens qui l'entourent et dit.
Bon, et vous, que faites-vous chez moi? Qu'avez-vous à venir me narguer dans ma vraie vie? Je ne vous ai pas appelé. Je veux vivre en paix. Laissez-moi en paix. Allez, allez-vous-en. De toute façon, j'ai décidé de me débarrasser de vous. Vous ne faites plus partie de mon univers. J'ai décidé de changer de monde, de création. Allez, partez.
Les gens le regardent gênés. La femme leur dit,
excusez-le, il est fatigué. Le
docteur dit,
oui, allons plus loin, laissons-le, il est fatigué.
Les gens se retirent, sa femme aussi. Albert se rassoit, il regarde la foule aller venir.
Il voit danser Charles de Hautbord avec Flore.
Il est là lui aussi.
Il regarde tous ces gens comme abrutis, comme dans un brouillard, comme un mauvais rêve.
C'est pas possible, je dois rêver.
Au bout d'un moment, il voit d'un coup sa femme dans un coin avec un jeune homme. Un jeune homme d'une trentaine d'années. De taille moyenne, les cheveux bruns qui ondulent, le visage sympathique avec des lunettes. Sa femme rit près de lui, une coupe de champagne à la main.
Il est là, lui. Ça ne m'étonne pas. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de désagréable, il est près de moi.
Furieux, il s'avance vers eux et dit à sa femme.
Qu'est-ce que tu fais avec cet horrible individu? Mais Albert, c'est notre ami Marc.
Je vois bien que c'est lui. D'ailleurs, c'est lui.
Qui t'a dit d'inviter cette crapule?
Marc, outré, lui dit. Je ne comprends pas.
Ce sera bien la première fois que tu ne comprendrais pas. Je te connais bien, tu sais, depuis le temps. Et d'abord, que fais-tu avec ma femme?
Marc hausse les épaules et dit,
viens, nous parlions.
Je te connais, tu sais. Je sais que tu aimes les femmes de 40 ans.
Albert, je t'en prie. Sois pas ridicule.
Oh, ça va, hein? Ça va. Je sais aussi que les femmes de 40 ans l'aiment bien.
Marc s'avance vers lui. Albert le prend en colère et lui crie.
Tu vas me foutre le camp, toi. Et de suite, le plus vite possible.
Marc se dégage et se sauve.
François lui dit, tu vas le payer. Tu vas me payer. Tu vas voir.
Et elle s'éloigne. Albert va s'asseoir dans un coin et reste tout le temps de la soirée. Après la soirée, sa femme est allée s'enfermer dans sa chambre. Lui, il a dû coucher dans son bureau. Le lendemain matin, il retrouve sa femme pour le petit déjeuner, servi par leur domestique Martin, vieux domestique de la famille, un peu philosophe. Il voit que sa femme a le visage des mauvais jours. Il lui dit,
je m'excuse pour hier au soir, je n'étais pas bien. Et puis, je ne peux pas supporter ce Marc.
Il se fait une tartine de beurre. Elle lui dit,
attention, tu en as déjà mangé 3.
Oh, tu crois?
Il repose la tartine sur la table.
Pourtant, je croyais bien avoir l'impression de ne pas en avoir mangé.
Elle hausse ses épaules, elle boit une gorgée de son thé et pose sa tasse.
Je ne comprends pas pourquoi tu ne supportes pas Marc. C'est ridicule, puisque c'est toi qui l'as créé.
Il lui dit irrité.
Je sais, mais il a pris toute son indépendance. Il fait ce qu'il veut.
Ou ses épaules irritées et dit.
Je ne sais plus ce que je dis. Nous parlons de choses tout à fait invraisemblables. Et nous sommes entourés de gens qui n'existent pas. J'aime mieux croire que je suis un cauchemar. Autrement, je vais devenir fou.
Elle le regarde ahuri et il continue.
Je suis en train d'entrer dans le thème de mon livre. Je sais, c'est fou. Mais ce qu'il y a de plus fou, c'est que tu prennes tout ça naturellement.
Il se lève irrité, pose sa serviette sur la table, elle soupire et lui dit.
Vu la façon dont tu te conduis, j'ai décidé de partir quelques jours avec une amie. Elle a visité une villa en Bretagne qu'elle veut acheter.
Eh bien, pars. Je profiterai pour écrire.
Et il sort de la pièce. Il va s'enfermer dans son bureau. Au bout d'un moment, ne sachant quoi écrire, il regarde droit devant lui. Après avoir réfléchi, il décide d'écrire ce qui lui est arrivé ces jours-ci. Il se penche vers son bureau et voit des feuilles éparses déjà noircies de sa petite écriture. Surpris, il lit ce qu'il a écrit et voit, avec stupeur, que c'est ce qu'il voulait écrire.
Ce n'est pas croyable. Je ne me souviens plus de ce que j'avais déjà écrit cela.
Il regarde l'heure à sa montre.
14 heures. J'ai l'impression de m'être à peine levé. J'ai plus la notion du temps qui passe. Mon Dieu, que faire? Sans notion du temps, la vie est invivable.
Il sort de son bureau. Voit Martin dans le vestibule.
Madame est partie.
Oui, monsieur. Et avant, elle est venue dire au revoir, monsieur. Monsieur s'en souvient plus?
Monsieur n'est pas bien. Vous êtes comme moi. Je me posais tant de questions. Pourquoi est-ce que cette vie que je vis et qui pourrait être une autre vie? Quelquefois, je me demande et je me regarde vivre et me dis que je ne vis pas vraiment. Mais comment savoir si l'on vit vraiment ou si on se regarde vivre? C'est pas facile.
Albert lui dit,
moi en ce moment, je suis incapable de voir la différence entre le réel et l'irréel.
Martin le regarde et lui dit, vous avez de la chance.
Albert, vous croyez? J'ai faim.
Mais monsieur a déjà mangé, il y a un quart d'heure. Il avait dit qu'il avait trop mangé.
Vous croyez? J'ai pas de chance.
Il retourne à son bureau. Mais seulement pour y rêvasser. Alors qu'il est à son bureau, démoralisé, à ne savoir que faire, on frappe à la porte.
Entrez.
C'est Martin.
Monsieur, il y a monsieur Desanjus qui désirait vous voir. Faites-le entrer, Martin, dans ce bureau. Ils seront plus à l'aise.
Martin sort. Albert range ses papiers sur le bureau et les met en pile.
La porte s'est ouverte pour la seconde fois et apparaît un homme maigre, presque osseux, chauve sur le devant, les lunettes qui cachent des yeux bleus profonds et une moustache grise. Il porte un costume croix-pièce. Se dégage en lui une certaine élégance vieillotte mais profonde. C'est Monsieur de Jean-Jus, membre d'une noble famille de la branche des Hautebord, célibataire, aimant beaucoup les jeunes gens, écrivain amateur et amateur d'œuvres d'art. C'est lui qui, pour ainsi dire, invente, crée tous ces personnages qui sont passés dans ces multiples histoires, et Albert est aussi son œuvre. Mais ce qui fait que l'œuvre d'Albert est la sienne. De tout ceci, Albert ne peut le savoir, car l'on croit connaître ses parents, ceux qui vous ont mis au monde, mais personne ne connaît le Créateur suprême.
Albert. Albert se lève pour saluer son ami et conseiller. Malgré qu'il fasse jour, la pièce est dans la pénombre, les volets n'ont pas été ouverts et seules les lampes l'éclairent. Car Martin a peur pour son maître. Il dit que l'inspiration vient des ondes du ciel et que si ces ondes, on les attire trop, peuvent être dangereuses. C'est pour les diminuer qui n'ouvrent pas les volets lorsque son maître écrit.
Je suis heureux de vous revoir.
Moi aussi, Albert. Ils se font la collade, car cela fait longtemps qu'ils se connaissent.
Je vous reçois ici. C'est pour que nous soyons plus à l'aise.
Tu as raison, et tu as bien fait. Une bibliothèque, un bureau, c'est mon univers. Ils vont s'asseoir, tous deux, dans des fauteuils en cuir marron, près de la cheminée.
Alors, Albert, j'ai appris que tu as des ennuis.
Oui, non, c'est-à-dire qu'il se passe des choses étranges.
Raconte-moi.
Vous allez vous moquer de moi.
Non, un écrivain ne se moque jamais, car tout est possible pour lui.
Eh bien voilà, ça a commencé le jour où je me suis mis à douter de mon œuvre. Je trouvais que je me répétais et racontais toujours les mêmes choses. Alors, j'ai décidé de décrire autre chose. Et tout d'un coup, tout a basculé. Tout a basculé dans ma vie. Tout ce que je fais est déjà fait. Je téléphone, on me dit que j'ai déjà téléphoné il y a 10 minutes. Je vais au restaurant, j'apprends que j'ai fini de déjeuner il y a à peine 5 minutes, etc. J'ai des illuminations aussi. Je crois voir des personnages de mes romans entrer dans ma vie. Je n'ai plus notion de l'heure. Je vais écrire ce que j'ai déjà écrit. Enfin voilà, ma vie est devenue un enfer. Je ne sais quoi penser. J'ai l'impression de devenir fou.
Il ne faut pas te démoraliser. Tu sais fort bien que pour en sortir, la solution est qu'il suffit de trouver la clé. Ne commence jamais d'écrire un sujet sans en connaître la fin. Cela t'évitera des ennuis. Fais un plan pour éviter d'écrire n'importe quoi.
Mais ce qui m'arrive n'a rien à voir avec un roman. Mes ennuis sont bien réels. Je les vis.
Tu sais fort bien que pour nous, notre imagination et le réel se mêlent. Notre vie intérieure est si forte que quelquefois, nous la prenons pour la vraie vie.
Tu sais, hein? Alors, toi, ce que tu as, c'est que tu vois, tu ne vois plus la différence qu'il y a entre le réel et l'irréel et ton imagination.
Que dois-je faire?
Ne plus écrire, ni lire et vivre intensément.
Comment puis-je vivre intensément puisque je trouve la vie fade, sans rapport avec l'imaginaire?
Ne pensez à rien. Acceptez les petits plaisirs de la vie et les peines aussi. Et vivre, voyager, changer de monde. Aimer vivre, ça veut dire aimer des petites choses, comme tout le monde. Et ma vie deviendra normale?
Oui.
Sans attrait, monotone. Vous croyez que c'est vraiment cela, la vraie vie?
C'est une vie brute, sans sublimation.
Je vais suivre votre conseil, mais pourrais-je reprendre ma vie?
Les dieux descendent de l'Olympe et y retournent. Pourquoi pas nous?
Mais pour cela, il vous faut un caractère suffisamment fort.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.
Et maintenant, cher public, puisque vous avez été bien sage, la direction du théâtre vous offre 10 minutes.